Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Soyez les bienvenus sur cette libre antenne. Voici donc l'heure de tamiser la lumière et de s'installer. Pour certains, devant leur téléphone, s'ils souhaitent nous appeler au 3921 pour passer à l'antenne. Pour d'autres, dans leur lit, leur canapé ou au volant de leur voiture, s'ils aiment écouter des moments de vie. Le psychanalyste Pascal Couder écrit en parlant de la thérapie. La thérapie est un espace singulier, personnel et intime. C'est un moment authentique où on peut poser ses bagages, ses pensées les plus profondes. Elle devient alors un moyen de recréer un espace volé, un espace de l'existence dans lequel on a le droit d'être, de dire, de penser ou d'écrire. Le travail thérapeutique est une décision personnelle dont il faut souligner le courage et parfois l'urgence. Alors bien sûr, nous ne faisons pas de thérapie en version speed dating sur une émission de radio et je ne suis pas psy, mais je suis là pour vous écouter, vous apporter mon expérience et le recul souvent nécessaire pour arriver à voir les choses autrement et donc peut-être trouver un apaisement. Si vous avez envie de venir me parler ce soir, vous faites le 39-21 pour participer par SMS et le 739-21 suivi du mot nuit et de votre message. Toute l'équipe de la Libre Antenne Week-end est là pour vous ce soir. Cyril à la réalisation, Nicolas et Lucas toujours sous la houlette de Kevin, de Kelvin au standard, il va m'en vouloir encore. Nous on est prêts, si vous l'êtes aussi, on commence maintenant.
Sabine Marin vous écoute sur Europe 1.
Et on commence cette émission avec l'appel de Marie-Pascale. Bonsoir Marie-Pascale.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à vous.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ?
Ah bah beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je subis des maltraitances en permanence. En fait, je vous explique. Depuis mars 2013, j'ai fait une chute et je suis en anorexie chronique depuis cette chute qui s'est installée sournoisement, mais qu'aucun médecin s'explique. Et donc les médecins, à la longue, m'adressent à des psys qui me donnent des médicaments épouvantables, qui me donnent des médicaments épouvantables qui me détruisent le foie, qui me donnent des nausées terribles. Et mes enfants et le CMP de Lambersart, où j'ai été suivie un moment, m'ont fait mettre sous tutelle de manière abusive. Et je n'arrive pas à me dégager de cette tutelle. J'écris régulièrement au juge des tutelles pour me dégager de cette tutelle. En fait, mes enfants n'ont que de cesse que je termine mes jours dans un hôpital psychiatrique et me rafler l'argent.
C'est agréable.
Comment ?
C'est agréable, ça, comme façon de faire, dis donc.
Oui, c'est assez terrible.
Alors, oui.
Alors, je fais des courriers recommandés au tribunal. J'ai même pas d'accusé de réception. J'arrive pas à les avoir au téléphone, j'ai même pas d'accusé de réception à mes courriers et je sais pas comment je peux faire.
Alors, racontez-moi un petit peu plus. Déjà, quel âge avez-vous ?
J'ai 70 ans.
D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était quoi cette chute ?
C'est une chute, un accident domestique bête. Je me suis fait une fracture du pied. Et là-dessus, c'est installé une algodystrophie, c'est extrêmement douloureux, oui. Qui n'a pas été diagnostiqué tout de suite, qui a été diagnostiqué au bout de 3 mois. J'ai souffert lamentablement 3 mois avant que ce soit diagnostiqué. Et puis, c'est installé immédiatement une anorexie qu'aucun médecin ne s'explique. Et ne s'expliquant pas, me renvoie à des psys, qui me mettent des antipsychotiques et des antidépresseurs terribles. Qui me donne la nausée, j'endors pas mes nuits.
Alors,
j'endors pas mes nuits.
Vous aviez quel âge quand vous avez fait cette chute ?
J'avais 60 ans.
Donc ça fait 10 ans que ça dure ?
Oui, ça fait 10 ans que je supporte ça.
Donc l'anorexie, je ne sais pas si elle était latente ou si c'est un choc émotionnel qui a pu déclencher ce comportement-là, probablement. J'imagine que c'est...
Je ne sais pas, il n'y a aucun médecin qui se l'explique. Et je voudrais me débarrasser de cette tutelle et je ne sais pas comment faire.
Alors attendez, je vais reprendre les choses dans l'ordre si vous le voulez bien. Cette anorexie, elle vous fait aller jusqu'à où comme extrême, par exemple?
Ah ben, je mange pas, je dors pas, j'arrive pas à manger, tellement j'ai des nausées, tellement je suis anorexique. J'arrive pas à faire 3 repas normaux par jour.
Vous êtes descendu à quel poids?
Je suis à 59 kilos. Donc là, j'ai vu un gastro la semaine dernière qui m'a trouvé des nutris. Donc j'ai une prise de sang à faire. Elle me dit oui, là vous êtes il me semble que vous êtes complètement dénutrie.
Et ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pourquoi les médecins n'ont pas pris ça. J'ai l'impression à vous entendre qu'ils n'ont pas pris ça au sérieux.
Ah non, ils s'en foutent. Ils pensent que je suis cinglée, ils pensent que je suis bête, que je suis folle.
Alors, mais dans ces cas-là, il y a quand même des choses très claires qu'on appelle des examens sanguins, des bilans. Est-ce qu'ils vous ont fait faire
oui,
tout
là,
ça?
Oui, là, j'ai un bilan prescrit à nouveau.
Mais à l'époque,
j'ai certainement des carences, forcément.
Quand ça a commencé, est-ce que les bilans ont révélé quelque chose?
Pas vraiment.
Ah.
Pas vraiment. Non. Pas vraiment.
Donc c'est ça qui est curieux.
Mais moi, je voudrais savoir comment je peux faire pour me débarrasser de la tutelle. Ça a été complètement abusivement mis.
Alors attendez, j'essaie de garder le fil. Donc au départ, vous vous rendez compte que ça déclenche une algodystrophie. Donc, probablement, elle était là aussi, j'imagine. Elle a été déclenchée par la douleur ou par la chute. Et plus un comportement avec la nourriture qui est probablement une réaction émotionnelle très forte à tout ça. Comment était votre vie à ce moment-là, il y a 10 ans? Vous étiez mariée?
J'étais veuve, mais j'étais classée au tennis, je faisais du sport,
oui.
Je sortais beaucoup.
Mm-hmm.
J'étais au cœur régional Nord-Pas-de-Calais, où il y avait une activité intense de chant et de concerts.
Donc une belle vie sociale, en tout cas.
Une belle vie sociale, là je ne peux plus rien faire. J'ai passé les temps fermés, là. Enfermée.
Combien d'enfants avez-vous?
J'ai 3 enfants qui sont lamentables avec moi. Ils n'ont que de cesse, c'est de me foutre dans un hôpital psychiatrique et de rafler le fric.
Alors depuis quand ça se passe mal avec eux?
Depuis longtemps. Depuis très longtemps.
Pourquoi?
Et ils m'empêchent, je ne sais pas. Et ils m'empêchent parce que je ne sais pas faire à manger, parce que je suis anorexique.
Non mais ça c'est récent, vous ne l'étiez pas avant?
Ah non, si, je suis anorexique depuis mars 2013, ça fait longtemps que ça dure. Et j'en perds le sommeil,
Mais
je suis hyper allergique, là.
Mais quand vos enfants étaient petits, pourquoi ça se passait mal avec eux?
Ah, quand ils étaient petits, ça se passait bien. Maintenant, ça se passe pas bien. Ils sont complètement ingrats.
À quel moment, d'après vous, ça a dérapé?
Assez vite après ma chute.
Ah donc jusque-là, ça allait bien avec eux?
Ah oui, très bien. Très bien. Oui, très très bien.
Est-ce qu'ils ont des...
Je menais ma vie, je les appelais le week-end, c'est tranquille. Je les appelais tous les dimanches soirs pour savoir comment ils avaient passé leur semaine. Et là ils ne m'appellent plus. Je n'ai pas un coup de fil. J'ai passé tout l'été enfermée toute seule dans ma maison.
Mais là vous mélangez un peu les choses, parce que vous me dites que ça a commencé il y a 10 ans au moment de la chute. Puis vous repassez à aujourd'hui, mais entre il y a 10 ans et le moment de la chute, j'aimerais bien comprendre la raison. Il y a toujours une raison à quelque chose, à un comportement. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas été là il y a 10 ans quand vous avez fait cette chute? Quelles étaient leurs
raisons? Au moment de la chute, ils étaient un peu présents. J'ai un fils qui était un peu présent, mais pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup.
Qu'est-ce que vous auriez attendu d'eux?
Bah, qu'ils me viennent en aide pour installer des aides à la maison, pour m'aider.
Oui, vous leur avez demandé à l'époque?
Ah bah oui.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu?
Bah rien, ils venaient passer un week-end de temps en temps, et puis ils allaient se balader, et ils allaient chez des copains, et ils me laissaient toute seule à la maison.
Mais quand vous leur disiez concrètement, j'ai besoin d'aide pour installer ça, ils vous disaient non?
Non, oui, ils ne voulaient pas, ils n'ont jamais rien fait pour moi, jamais rien.
C'est très surprenant, puisque vous me dites que ça se passait bien avant.
Avant ma chute, oui, ça se passait très bien.
Mais comment vous expliquez ce changement de comportement à cause d'une chute?
Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans leur tête. ils sont lamentables, hein. Et je suis dans un état lamentable, hein. Je suis complètement dénutrie. Mon algodystrophie, elle n'est pas complètement terminée. J'ai une scoliose. Et mon tuteur ne veut pas me créditer une somme d'argent pour aller consulter. J'arrête pas de lui téléphoner, d'envoyer des mails, mais il ne veut pas me créditer d'une somme d'argent pour que je puisse consulter, tout simplement.
Qui a demandé que vous soyez mise sous tutorat ?
Une psy complètement débile. Complètement débile. Devant mon anorexie, elle m'a dit « Vous avez qu'à aller au restaurant matin, midi et soir. » Ce que j'ai suffi scrupuleusement. Et j'ai dilapidé mon fric comme ça, à cause d'elle. Et du coup, mes enfants ont demandé à ce que je sois mise sous tutelle pour protéger les biens.
Donc c'est pas la psy, c'est vos enfants qui ont demandé ça.
C'est les enfants et la psy. Les enfants et la psy.
Et qui est votre tuteur ?
C'est un notaire, un ancien copain, mais je lui envoie des mails, je l'appelle, il répond jamais. Il répond jamais. Donc je sais pas. Et puis le tribunal d'instance de Lille. J'habite à Lambersart près de Lille. Le tribunal d'instance de Lille ne me répond pas à mes courriers recommandés. J'ai même pas d'accusé de réception. Parce que j'ai fait appel à la décision. Et je m'en sors pas. Je ne sais pas comment je peux faire.
Est-ce que vous avez fait appel à un conciliateur de justice ?
Ah non, j'ai pas essayé.
Qui est une autorité indépendante de tout organisme ?
Oui.
Et qui peut vous aider ?
Oui.
Alors vous pouvez le trouver au tribunal judiciaire le plus proche de chez vous, à la mairie, trouver ses coordonnées à la mairie. Mais un conciliateur de justice pourra peut-être prendre part sans être influencé, si vous voulez, dans une histoire comme celle-ci.
Ah oui, je vais essayer.
Et votre tuteur, donc c'est lui qui gère votre argent, si je comprends bien ?
Il gère mon argent, mais il ne gère pas du tout. Ma maison se dégrade complètement. Elle est dans un état effrayant. J'ai des assurances vie qui ne sont absolument pas boostées, absolument pas gérées. Je gérais ça très très bien avant ma chute. C'était quelque chose que j'avais organisé avec mon responsable de patrimoine. Et il y a de l'argent qui dort et qui n'est pas géré, qui est géré par personne. Plus personne depuis que je suis sous tutelle. Ça fait 3 ans que ça dure. Je ne sais pas quoi faire.
Je souffre
abominablement de mon anorexie.
Oui, c'est-à-dire que... Et vous mesurez combien ?
1,67 m.
Bon, 59 kilos, ça va, vous tenir encore debout.
J'essaye de me forcer à manger, mais c'est difficile. Surtout toute seule. C'est difficile.
Et vous n'êtes pas suivie par un thérapeute ?
Par un thérapeute ?
Oui.
Non, c'est le centre médico-psychologique de Lambersart. Ils sont lamentables. Quand je les appelle, ils viennent pas. Il y a personne, il n'y a aucune présence. Non, c'est lamentable. Moi, je suis infirmière de formation. Moi, je suis assez catastrophée de ce que devient la médecine française. Mon généraliste, il passe 10 minutes, il me prend ma tension, ma température, et puis il s'en va, il se sauve, il encaisse la monnaie. Et il me balance des médicaments à outrance qui me rendent complètement malade. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Hein. Et là, j'ai besoin de kinésithérapeute. Eh bien, je téléphone. Et j'ai une fin de non-recevoir, j'ai des textos qu'après elle peut me prendre. C'est assez terrible, quoi.
Attendez, j'ai un peu de mal à comprendre. Comme quoi les kinés peuvent pas vous vendre. Tout à l'heure, vous me disiez que c'est votre tuteur qui ne vous laissait pas l'argent pour vous faire soigner.
Oui, j'ai pas d'argent pour aller me faire soigner. Parce qu'ils m'ont supprimé, en plus, ils m'ont supprimé le droit à conduire. Parce qu'ils m'ont balancé des médicaments à outrance. Donc j'ai eu une interdiction de conduire. Donc, il faut que je prenne des taxis pour aller consulter les médecins. Et j'ai demandé à mon tuteur de me créditer un budget pour prendre les taxis. Et il ne veut pas. Il ne veut pas. Il refuse tout. Il refuse tout, tout, tout.
Vous avez des preuves écrites de tout ça ?
Comment ?
Est-ce que vous avez des preuves écrites de tout ça ?
J'écris les choses dans un cahier jour par jour.
Ah oui, ça, c'est pas une preuve.
Il n'y a personne qui peut prouver. Absolument personne, puisqu'il n'y a personne qui passe chez moi.
Des échanges par mail, par exemple, ça sert de preuve ?
Oui, j'ai des échanges mails. Mais je les transfère à qui ?
Je pense justement à un conciliateur de justice.
Oui, je vais essayer.
Quelqu'un qui peut vous aider à mener ces différents combats qui me paraissent bien compliqués et bien, bien abrités.
C'est assez terrible.
Qu'est-ce qui fait que vous tenez dans une journée? Comment vous occupez vos journées?
Ah bah écoutez, essayer de me faire à manger tant bien que mal, comme je peux. J'ai un tout petit pas de chez moi, j'essaie de me faire à manger tant que je peux, autant que ça se peut, malgré mon manque d'appétit total. Et puis entre deux, bah, je joue au Scrabble en ligne, je joue au bridge en ligne. Et puis c'est tout. J'ai perdu tous mes amis parce que je suis complètement isolée socialement à cause de mon anorexie. Je peux inviter personne à manger chez moi parce que j'ai pas le fric, j'ai pas d'argent. Je suis pas créditée. Donc je suis.
Et ça empêche vos amis de vous inviter eux chez eux à prendre un café ou un thé?
Ben, il faut que je prenne un taxi, mais ça me coûte, si ce soit un peu loin, ça peut me coûter 40 à 50 euros l'après-midi.
Mais alors, eux peuvent venir chez vous prendre un café?
Oui. Oui.
Oui, mais
Oui, je peux appeler des amis à prendre un café. Enfin, ça ne va pas arranger mes problèmes.
Ce qui me surprend dans votre récit, c'est qu'avant cette chute, vous me dites que tout allait très bien.
Ah oui, j'étais en pleine forme. J'étais vraiment en pleine forme, en pleine santé. Je jouais au bridge, je jouais au tennis 3 fois par semaine. Je faisais de la natation et je faisais 6 heures de chant et du piano et de la musique. Je faisais 6-7 heures de musique par semaine. Et là, je ne peux plus rien faire. Plus rien. J'ai un reflux gastro-œsophagérant qui me bousille les cordes vocales. Elles sont bouffées par l'acide. Je ne peux plus chanter, je ne peux plus rien faire.
Et en 10 ans, il n'y a aucun traitement qui a pu vous aider sur un plan ou sur un autre?
Non, absolument pas. Non.
Je trouve ça un peu bizarre.
Non, c'est très dur, c'est vraiment très dur. Très dur, et puis j'en perds le sommeil. Donc. Je dors de 2-3 heures par nuit parce que j'ai mal. Je me réveille, je pleure la nuit de douleur.
Vous n'avez aucun traitement contre la douleur?
Bah, du dafalgan, ça fait 2 heures. Quoi.
Et pourquoi les médecins ne vous donnent pas des vrais traitements efficaces?
Ben, j'en sais rien, parce qu'ils sont nuls. Tout simplement, ils sont nuls. Je ne sais pas quels sont les traitements très efficaces pour la douleur.
Mais il y a quand même des choses plus efficaces.
Il y a deux mois, le remplaçant généraliste a voulu m'envoyer dans un hôpital pour traiter la douleur. Et en fait, j'ai appelé mes enfants et quelques-uns de mes frères et sœurs qui sont sur la région. Et je leur ai demandé, écoutez, aidez-moi au moins à faire ma valise et accompagnez-moi jusqu'à la structure, que je vois ce que c'est. Il n'y a personne qui a voulu se déplacer. Du coup, je ne suis pas allée. Je suis restée chez moi.
J'ai un peu de mal à comprendre. Pourquoi, comment se fait-il que vous soyez en relation conflictuelle avec tous les gens de la famille?
Ben, c'est pas vraiment conflictuel, j'ai pas d'appel.
Ben si, quand vous demandez de l'aide et qu'on vous dit non, c'est quand même...
Ben, c'est bizarre, oui. Ben, je ne sais pas.
Mais vous ne savez pas pourquoi?
Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout.
Et vous ne leur demandez pas?
Ben, je leur demande pas, non. Quand j'appelle, ils répondent pas. Quand j'appelle pour dire ma détresse, ils me laissent tomber complètement.
Et il n'y a plus aucun ami ou aucune amie qui peut être là pour vous?
Non. Puis comme j'ai de l'argent sur des comptes en banque. Mais mon tuteur m'empêche de l'utiliser, donc je peux même pas inviter mes amis. Je suis pas partie, j'ai passé l'été entièrement seule, enfermée chez moi.
Et qu'est-ce qui vous fait dire que subitement vos enfants, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent?
Ah bah parce que c'est, il y a que ça qui les intéresse. Quand ils viennent, ils vont sur Internet pour regarder où en sont mes comptes. Et là, je me suis payé un nouveau portable et une nouvelle tablette. Et j'ai un fils qui est venu de Lyon il y a un mois qui voulait m'embarquer ma tablette et mon nouveau téléphone.
Comment vous avez fait pour les payer?
Ah bah là, mon tuteur a accepté. Là, j'avais de l'argent à ce moment-là.
Alors il accepte pour une tablette mais pas pour un soin kiné?
Oui, c'est complètement fou.
On est bien d'accord.
Oui. complètement fou.
Bon, vraiment, je pense que... Essayez le conciliateur de justice, ça me semble quelqu'un
oui,
qui pourra interférer en votre faveur dans différents domaines.
Hein. Mmh. Ouais. Oui, je vais essayer, j'y ai pas pensé. Mmh.
Ça peut être un bon intermédiaire dans tout ça.
Mmh. Oui. Et comment trouver un bon médecin, je ne sais pas.
Et pourtant, vous êtes du milieu.
Hein. Mmh. Ben, je sais bien. Mais ils sont... Moi, je suis vraiment, vraiment désolée. Je suis infirmière. Je suis vraiment désolée de ce qu'est devenue la médecine française. Vraiment, soigner les gens par visioconférence, à distance. Je ne suis jamais plus examinée. Il n'y a plus d'examen clinique. C'est complètement fou. Vous ne trouvez pas?
Ah bah attendez, il y en a encore. Simplement, il y a eu quand même un problème qu'on appelle le Covid.
Hein. Mmh. Oui, bah oui, je sais bien.
Mmh. C'était quand même mieux que rien de pouvoir avoir des consultations à distance.
Ben oui, enfin bon, c'est tout. Les médecins sont vaccinés, donc ils peuvent vous examiner quand même.
Mais à l'époque, c'est récent les vaccins.
Ben oui, je sais bien.
Bon, tentez le conciliateur, vraiment, Marie-Marie Pascal. Je pense que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous prendre en main dans différents domaines et vous orienter, vous aider. D'accord ?
Oui, d'accord.
J'espère que ça va fonctionner.
Ok.
Prenez soin de vous.
Ok. D'accord.
Au revoir.
Je vous remercie. Au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Do.
Shine, c'était Jamiroquai.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et bonsoir à vous Yvette.
Oui, bonsoir.
Je suis ravie de vous accueillir, tout le monde m'a laissé tomber, vous avez vu d'un coup?
Ben oui, c'est pour cette raison que j'ai appelé, parce que j'ai un petit tourment, étant donné que toutes les petites questions qui me traquent comme ça... Reste longtemps dans ma cervelle.
Yvette, pardonnez-moi, est-ce qu'il y a une radio allumée derrière vous?
Non.
Ah, ça, bon, parce que ça résonne un petit peu.
C'est parce que tout simplement, j'ai mis le haut-parleur. Ah. Sinon, j'ai 86 ans et sinon, je n'aurais peut-être pas une bonne oreille.
86 ans avec une voix de jeune fille comme ça, bah dites donc.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
C'est vrai.
Je suis née en 35 quand même. Alors, mon problème est celui-ci, c'est que lorsque mon mari est décédé en 15, j'ai demandé par écrit, bien sûr, d'obtenir la reversion, la pension de reversion, à la MSA, à la Mutualité Sociale Agricole. La réponse a été négative pour la bonne raison que je percevais à l'époque ma propre retraite qui était supérieure au plafond qui était de l'époque, si ma mémoire est bonne, d'un montant de 1800 et quelques euros, je crois.
D'accord.
Je ne me rappelle plus très bien. Alors, d'autre part, depuis, j'ai appris qu'il y avait des veuves qui pouvaient percevoir la retraite de leur époux. Alors je me demande si vraiment il y a d'autres régimes de retraite qui ne respectent pas les mêmes règles que la Mutualité Sociale Agricole.
Alors,
est-ce que je me suis fait bien comprendre?
Certes, mais c'est un problème juridique et moi je ne suis pas juriste. Donc,
mais je vois que vous avez l'habitude de répondre à un tas de questions, quelquefois d'ordre juridique quand même.
Oui, c'est quand je peux, là ça me paraît...
Mais là vraiment, ça ne fait pas partie du tout de...
De mes compétences, non,
je... non.
Par contre, ce qui peut se passer, c'est quand...
Quelquefois, il y a des réponses qui sont faites par...
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire.
Auditeurs,
oui, voilà.
Et qui sont bien renseignés. Alors, c'est tout de même assez surprenant de ne rien recevoir.
Oui, quand même, je trouve ça bizarre aussi, de réversion.
De l'époux, quoi, enfin, oui. du décédé. Enfin, c'est très curieux, tout de même.
Alors là aussi, est-ce que vous avez réussi à vous faire aider par quelqu'un pour ça ou pas du tout?
Ah, depuis non, parce que j'ai tellement compris qu'en effet, je n'y avais pas droit parce que je dépassais le plafond personnellement, parce que je n'étais pas agricultrice, moi. J'exerçais une autre profession.
Oui.
Et donc, je percevais à l'époque plus de 2000 euros. Alors, c'est très curieux parce que à ce moment-là, c'est comme si vraiment j'étais une femme célibataire. Et depuis, il m'a semblé qu'il y avait d'autres régimes qui ne procédaient pas de la sorte. Alors, est-ce que c'est uniquement la MSA? Est-ce que quelqu'un pourrait le savoir?
Bah écoutez, on va poser la question. Votre mari, si j'ai bien compris, était agriculteur, c'est ça?
Il était agriculteur. Affilié à la MSA, Mutualité Sociale Agricole.
D'accord, alors peut-être que c'est un domaine particulier, peut-être que si on a des auditeurs qui sont concernés, qui ont la réponse à ça, ils auront la gentillesse de nous appeler ou de nous envoyer un message au 739-21, suivi du mot nuet du message et que je vous transmettrai.
Ah,
mais je vous
bien.
Avoue que là, c'est quand même très très précis comme question.
Merci.
Pardon ?
Merci beaucoup.
J'aimerais pouvoir en faire plus pour vous, Yvette, mais c'est vrai que là, c'est très pointu comme question juridique.
C'est-à-dire que moi, il m'a semblé que on vous posait aussi quelquefois des questions qui me surprenaient. Parce que j'aime beaucoup la psychologie, alors je vous écoute beaucoup, mais il y a tout de même des gens qui posent également d'autres questions qui ont affaire peut-être à des sujets d'ordre... de garde d'enfants, etc.
Alors, il y a Théodora qui vient d'envoyer un message qui nous écrit « La retraite du mari est versée à la veuve si la retraite de celle-ci est inférieure à la retraite du défunt. » Et oui, c'est ça.
Ah.
C'est ça votre souci.
Ah ben voilà, c'est parce qu'on m'a répondu en effet que, étant donné que ma propre retraite dépassait le plafond qui était à l'époque, je vous ai dit, 2800 et quelque chose, je n'y avais pas droit. Alors, est-ce que tous les régimes de retraite
agissent de la sorte ? Ça, c'est la question à laquelle on aimerait bien avoir une réponse et j'aimerais bien qu'on ait des juristes ou des avocats ce soir qui nous répondent.
Bon,
ça fait combien de temps que vous vous battez avec cette histoire ?
Non, c'est seulement ce soir parce que j'ai appris qu'une personne de ma famille, elle percevait la retraite de son mari.
Et oui, mais quels sont ces
montants importants. Alors, je ne comprends pas.
C'est-à-dire plus important. Ça dépend. Est-ce que lequel est le plus important?
Oui, elle percevait 1500.
Oui.
Et elle m'a laissé entendre qu'elle percevait désormais plus de 3000.
Ah donc, mais
alors,
c'est.
Est-ce une vérité ou
oui,
pas?
Oui, bon, déjà, c'est pas sûr.
À partir de cette information, je me demandais si seulement la mutualité sociale qui était si peu généreuse.
Oui, effectivement. Alors là, c'est pareil. Est-ce que vous avez demandé peut-être
non, je n'ai pas fait de demande depuis. Je suis venue me coucher et je vous ai écouté. Mmh. Et à un moment donné, vous avez dit « j'attends vos appels ». Et je me suis dit « ben voilà, j'appelle ».
Mais c'est vrai que ce soir, c'est bizarre. Il y a plein de gens qui nous ont appelé.
J'ai posé ma question.
Il y a plusieurs personnes qui nous ont appelé ce soir pour passer à l'antenne en nous laissant leur numéro. Et quand on les rappelle, ils ne décrochent pas. Donc c'est vrai qu'on est un peu bête du coup à l'autre bout. C'est un peu compliqué à gérer.
Alors,
non, je suis en train de penser pour vous.
Je vais éventuellement avoir une réponse d'une façon quelconque.
Alors, ce qui peut se passer, c'est que soit ce soir, soit dans les jours qui viennent, parce que les gens nous écoutent aussi en replay, en podcast, ils peuvent nous répondre. Et dans ces cas-là, l'un de mes assistants vous fera le relais.
D'accord.
Vous téléphonera pour vous dire. Et puis vous aussi, vous savez, j'étais en train de parler juste avant du conciliateur de justice.
Oui.
C'est quelqu'un qui aide dans toutes les démarches et vous pouvez demander ses coordonnées à votre mairie.
Ah oui, d'accord.
Il peut vous aider pour essayer de régler des conflits.
J'ai pensé un tout petit peu à la mairie.
Demandez, ça coûte rien.
Bien, je vous remercie beaucoup. Ben
je croise les doigts, Yvette, merci de votre
appel. Je vous écoute depuis une éternité. Hein.
Tant que ça.
Parce que j'ai fait de la psychologie à une certaine époque.
Ah, c'est intéressant ça.
J'ai passé un examen, c'était à Rennes, avec tous les... salariés de l'époque, de tous les hôpitaux psychiatriques qui passaient l'examen. Et j'avais une question à propos des troubles alimentaires à l'époque.
Oui.
Et ça date. Je crois que c'était en 56.
Et quel métier avez-vous exercé après?
J'étais administrative après.
Ah, aucun lien avec la psychologie, alors?
Non, pas beaucoup, en effet. Bien, je vous remercie,
Attendez,
je vous écoute tous les soirs.
Ne partez pas, Yvette, ne partez pas, il y a deux messages qui viennent d'arriver.
Oui, merci.
Il y a un message qui dit, pour la réversion, le régime général est soumis à un plafond, mais pas pour les régimes de retraite complémentaire.
D'accord, mais moi, la caisse de la mutualité sociale avait oublié de m'indiquer qu'en effet, je pouvais prétendre à la retraite complémentaire et je l'ai obtenue longtemps après parce que j'ai découvert, suite à des conversations que j'avais avec des personnes de mon âge, et qu'en effet, je pouvais en bénéficier, mais enfin, je reçois 49 euros. Hein.
C'est pas grand-chose.
Enfin, merci pour cet appel.
Vous pourriez demander de l'aide aussi à un avocat fiscaliste, même par téléphone. Il y a des consultations d'avocats fiscalistes par téléphone.
Oui.
Vous pourriez demander à ce qu'on vous trouve un numéro de téléphone d'un avocat fiscaliste pour vraiment mettre ça à plat, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous dit que tout dépend du plafond et ça se joue au centime près. Donc ça vaut le coup que votre dossier...
Oui, mais puisque c'était à l'époque, c'était 1800 et quelques. Et là, je devais avoir 2000, 2100, enfin quelque chose comme ça. Donc c'était pas un centime près, j'étais au-delà quand même.
Non, mais je pense que si votre dossier est étudié par quelqu'un dont c'est vraiment le métier, ça peut valoir le coup.
Bon, merci madame, merci. Ben,
je vous en prie Yvette, je vous embrasse.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir de vous entendre.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir à vous.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Bonsoir à vous. Alors, vous savez ce qui va se passer, comme il est 58, on va se dire bonjour poliment, on va se dire de quoi on va se parler, et puis on va se quitter le temps des infos. Et puis je vous récupérerai bien sûr juste après. Donc voilà, dites-moi juste, Jean-Pierre, pour quelle raison vous m'appelez ce soir ?
Ben, disons, j'appelais parce que vous avez dit qu'on pouvait appeler, mais moi c'était surtout la personne d'avant qui m'avait fait penser un petit peu à des choses, moi, qui m'arrivent plus ou moins. Moi, l'histoire de ses enfants, moi, c'est pas les enfants, ce sont les amis, la famille et tout, qui me prend pour fou, parce qu'elle avait l'air de dire, puis elle avait l'air d'avoir toute sa tête. C'est ça qui est terrible. Et quand c'est, il y avait une certaine incompréhension, et puis l'histoire de l'avoir mis sous tutelle, moi, mes enfants, une fois, il y a quelques années, ils m'avaient parlé de me mettre aussi sous tutelle, alors que moi, j'ai mon argent, j'ai tout, je dépense pas, je suis... Et puis, donc, c'était parce que j'avais un peu de souk à la maison, quoi. C'était, je vivais dans un certain état. Mais de toute façon, là, moi, pour la dame, je dis, il y a quand même quelque chose qu'elle n'a pas tout à fait dit, parce que quand on vous met sous tutelle, donc il y a quand même une raison. Peut-être qu'elle jouait, peut-être des choses comme ça. Mais...
Oui, il y a plusieurs choses qui étaient pas tout à fait claires dans ce
oui,
récit.
Oui, parce qu'on voit qu'il y avait quelque chose, de toute façon. Quand elle disait qu'elle jouait au truc et tout, donc je pense qu'au niveau de l'argent, c'est au niveau de l'argent, moi, il n'aurait pas pu me mettre sous tutelle, hein, de toute façon, parce que moi, et pour mettre sous tutelle, il faut quand même une raison.
Oui.
Et il faut reconnaître que, même si c'est les enfants, ils étaient venus, là, ça a été terrible, mais moi, je craignais rien, on ne peut pas me faire avec ma tête, je suis sain d'esprit et tout, et je n'ai pas d'addiction, donc... on ne peut pas mettre
alors,
les gens sous...
Jean-Pierre, oui. Restez sain d'esprit quelques minutes encore, s'il vous plaît. D'accord.
Oui, d'accord.
On fait une pause, le temps des infos, et nous reprenons notre conversation dans quelques minutes.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Pour la seconde partie de cette libre antenne sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Ça vous laisse une heure pour nous appeler si vous avez envie de nous parler de vous, ce soir, de vos problèmes, de ce qui vous préoccupe. Si vous avez aussi envie de nous raconter comment vous avez surmonté un problème, surmonté une situation difficile. Chaque expérience est toujours intéressante, vous le savez. 39 21, Nicolas et Lucas attendent vos appels au standard. Pour réagir par SMS, donner votre avis, apporter un point de vue, donner votre soutien, demander d'être mis en contact avec quelqu'un qui vous a touché, c'est le 739-21, suivi du mot nuit et de votre message. Et puis je vous rappelle notre mail, tout simple, libreantenne@europe1.fr. Voilà, vous savez tout.
La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin, accompagne vos nuits.
Alors Jean-Pierre,
oui.
Je vous récupère. Racontez-moi un petit peu votre histoire à vous déjà, que je comprenne les tenants et les aboutissants.
C'est justement, là, je ne m'étais pas préparé à ça, c'est parce que c'était le moment, donc oui, je ne sais pas. D'ailleurs, entre parenthèses, j'aimerais bien quand même que vous donniez mon numéro de téléphone à la dame. J'aimerais bien téléphoner, qu'on se téléphone, parce que j'ai des tas de choses à essayer de comprendre aussi. Moi, j'essaye de comprendre mon fonctionnement, donc...
C'est noté, Jean-Pierre. On lui transmettra déjà.
Oui,
ça,
d'accord.
C'est fait.
Donc, alors, je ne sais pas par quel côté commencer, qui je suis, qu'est-ce que vous voulez savoir au départ. Mes problèmes, je ne sais pas si je vais les résumer. Actuellement, je suis en train de préparer le deuil avec tous les familles et les amis. Parce que ça ne peut pas aller. Tout le monde me dit que je suis que je suis fou, qu'il faudrait que je me fasse soigner. Ils me disent pas que je suis fou. Ils voudraient que j'aille me faire soigner. Bon, c'est pareil, oui, ça va pas être clair. Bon, et l'autre fois encore, c'est peut-être ma façon de parler. Enfin, l'autre fois, justement, j'ai eu un problème aussi à la déchetterie. Une petite jeune, là, qui je voulais regarder quelque chose dans les casiers. Et puis elle me dit, bah non, vous n'avez pas le droit, enfin, il faut tout démonter. Bon, bref, bon, j'assiste pas, hein. Et puis après, je vais poser des affaires à la, de l'herbe, des choses comme ça, puisque j'étais venu pour ça. Et après, donc, quand j'ai fini, je reprends ma remorque. Je l'avais détachée, hein, donc je reprends ma remorque pour la rapprocher. Et puis, je lui avais demandé si je pouvais prendre un balai pour nettoyer, parce qu'il y a plein de personnes qui ne nettoient pas. Bon, bref, quand je suis... entre-temps, il y a venu des personnes qui ont pris ma place à la remorque. Et donc, je leur dis, moi, je devais balayer. Oh, ils me disent, on le fera. Ben, je dis, vous savez qu'il faut rendre le matériel. Donc, elle me dit oui. Et quand je suis parti, je le dis à la personne de la responsable. Elle me dit, ouais, je vous ai fait confiance et tout ça. Elle m'agresse. Je me suis senti agressé pour des choses dont je n'étais pas... Enfin, c'était pour le bien que je demandais de nettoyer. Et je sais pas, c'est moi, par rapport à mes façons de penser, peut-être, je parais agressif. J'ai eu des mêmes problèmes avec une agence pour les assurances. Et pour les impôts, j'avais exactement un problème pareil. Quand je voulais avoir des renseignements, si quelqu'un d'autre me prenait, eh ben, il y avait une dame, elle me sautait dessus, non, je m'en occupe. Au niveau de la gym ou des choses comme ça, d'une association, il y a une personne qui est comme ça vis-à-vis de moi. Quand je suis en train de parler avec d'autres personnes, eh ben elle va s'interposer alors que... Qu'est-ce que ça peut lui faire? On ne parle pas d'elle. Vous voyez, c'est je sais pas. Il m'arrive des choses comme ça. Donc, maintenant, le mot problème, moi, ce serait pas grave si c'était des étrangers. Par contre, c'est au niveau d'amis. Par exemple, d'autre la famille. Bon, j'ai été mariée 38 ans. Hein.
Quel âge avez-vous, Jean-Pierre ?
Moi, j'ai 79. Je vais avoir 79 au mois de décembre.
D'accord.
Oui. Donc, j'ai été mariée 38 ans. Enfin, déjà, j'avais connu. J'ai pas beaucoup. Quand j'étais jeune, ça a été vite. Elle avait 15 ans et quelques quand on s'est connu tout ça. Moi, j'aurais peut-être bien aimé continuer. Bon, bref, elle était dans une difficulté, elle, vis-à-vis des parents, des trucs comme ça. Donc, on a continué comme ça. Et puis, donc, on s'est mariés. On a eu deux enfants. Et donc, moi, j'ai pas fait d'études, hein. J'ai été à l'école primaire, après j'ai été dans un centre d'apprentissage, j'ai passé mon CAP, après j'ai passé le BP, d'autres choses comme ça. Et puis, donc j'ai travaillé 11 ans en entreprise, et après, donc, comme ma femme était dans l'éducation nationale, il y avait une place dans un REA. Donc, je suis rentré auxiliaire. Alors, croyez-moi, j'étais pas...
Qu'est-ce que c'est un
trop à l'aise. Et comment ?
Qu'est-ce que c'est un REA ?
C'est pour les enfants handicapés.
D'accord.
Oui. Alors, je suis rentré là. Alors, j'étais pas trop rassuré parce que ma hantise, moi, c'était le français. Je me sentais handicapé au niveau du français. Pour le reste, bon... Je fonctionnais normalement, mais c'était, alors étant prof, c'était un gros problème. Donc par contre, les choses étaient plus ou moins résolues. Des fois, je demandais à ma femme de regarder, des choses comme ça. Bref, je dis ça parce que même encore maintenant, au niveau du français, je ne lis pas. Hein. Donc, mais je n'écris plus parce que j'ai toujours peur de faire des fautes. Et moi, je ne fonctionnais qu'avec la grammaire. Au niveau grammaire, ça allait pas mal. C'est comme quand on veut retenir des choses par le mémotechnique, mais on ne peut pas vivre avec ça. Mmh. Et je vois ma femme, qui, au niveau du français, elle ne pouvait pas comprendre que je sois comme ça. Mais elle, elle écrit quand elle veut voir si elle a fait des fautes, elle écrit.
Jean-Pierre,
donc elle, elle a des automatismes que moi.
Jean-Pierre, je perds le fil de ce que vous me disiez au début. Là, pour quelle raison j'en perds tout.
Non, mais j'étais en train de dire par rapport à mon cursus et les choses comme ça. Enfin bref, non, attendez voir, je ne sais pas comment je vais reprendre.
Moi non plus. Qu'est-ce que vous m'avez parlé de relations compliquées avec vos amis et maintenant avec
j'ai des relations compliquées actuellement, justement actuellement, et ça fait longtemps que ça dure. Donc bon, avec mon ex, dont on est quand même, on se voit. Elle m'invite le jour où ma fille vient, mes enfants viennent, c'est très bien. Par contre, quand je sais pas comment que je suis, on me dit que je rabâche et des choses comme ça. Moi, je suis marqué par la politique et sous ces trucs-là actuels. Quand je vois les histoires du Covid, ça me gêne de voir, il n'y a aucune stratégie. Encore avec le pass sanitaire, on en fait tout un drame. Moi, je vois, je veux pas justement faire sur le portable. Il suffit d'avoir sa vaccination. Donc, on a le certificat de vaccination. Et puis, moi, maintenant, j'ai trouvé le moyen. Pour la pièce d'identité, je prends ma carte verte. J'ai ma photo. Or, je me suis aperçu aujourd'hui, j'étais au cinéma, mais je leur demande, qu'est-ce que vous voyez avec ça? Ils voient mon identité. Mais s'ils ne connaissent pas mon identité, s'ils ne savent pas qui je suis, ça sert à quoi? Ils disent, on n'est pas flic. Mais il faut, quand on fait le pass, avoir en même temps l'identité, de savoir la personne.
Vous m'appelez pour quelle raison?
Eh bien, parce que justement, bon, je vous dis un exemple par rapport aux choses dont je raconte, si on veut. C'est ça, c'est des sujets comme ça dont je parle avec les amis, avec mes enfants et ces choses-là. Et eux, pour eux, je ne sais pas, je suis spécial.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Par contre, mon ex, quand je suis là-bas, elle dit, je ne veux plus t'entendre raconter les bêtises. Et quand je fais chez autres personnes, parce que soit je suis un peu peut-être omnibulé par ça, quand je vois toutes les bêtises qui se font, les choses, c'est incroyable actuellement. On est en train de se mettre dans une de ces merdes et personne ne réagit. Hein. Bon, c'est tout. Alors, attendez voir, je ne sais pas, pour vous montrer... Bon, alors, en définitive, moi, maintenant, je suis obligé de la fermer. Et si vous saviez ce que j'ai à l'intérieur, donc, justement, quand je vous parle du Covid, je vous ai parlé du Covid parce que, pour moi, je vois ce qui se passe, donc je peux vérifier que ce que j'ai dans ma tête est cohérent.
Vous êtes en bonne santé, Jean-Pierre, il n'y a pas de souci particulier.
Non, justement, je suis en bonne santé, mais moi, j'ai un peu peur. Parce que j'ai un peu peur que, bon, vous savez ce qui arrive quand on est âgé, il y a Alzheimer et les trucs comme ça. Pour l'instant, ma tête est claire, mais je ne peux pas dialoguer avec les personnes, sortir ce que j'ai à l'intérieur qui est pour moi cohérent. Il n'y a pas de communication.
Oui.
Et justement, c'est pour ça que je dis, moi, je suis autiste. En définitive, autiste. On peut pas correspondre. Or, ce que j'ai à l'intérieur, je ne peux pas le sortir ou les gens ne l'entendent pas comme je l'ai à l'intérieur, si on veut.
C'est-à-dire que votre réalité n'est pas forcément celle des autres, si je comprends bien. Et inversement.
Elle ne peut pas être la même des autres. Puisque moi, comme je fonctionne, quand j'entends quelque chose... J'essaye de me l'approprier en disant, bon, est-ce que c'est plausible, est-ce que ça semble juste? Et après, j'ai une fonction de trouver une solution pour améliorer. Alors là, c'est pour ça, les choses ne conviennent pas. Moi, quand il y a eu le Covid, quand il y avait le petit papier, je m'étais fait un tableau où il y avait les horaires, les trucs comme ça. On voyait exactement mon cursus, ce que j'avais fait.
D'accord.
Or là, c'était du n'importe quoi. Maintenant, avec le pass sanitaire, c'est la même chose. Et puis les gens, les anti-vaccins et tout ça, moi, je ne comprends pas qu'on puisse passer des choses comme ça. puisque c'est normal. S'ils veulent pas se faire vacciner, ben ils n'ont pas le droit de sortir, puisqu'ils risquent de communiquer. Donc il n'y a pas à en faire un plat. Il suffirait que, comme j'ai, moi, ma carte de vaccination avec mon truc dessus, et à côté, ma carte vitale avec ma photo. Moi, quand je fais ça, eh ben c'est fait. Et puis quand on est dans une organisation, ou quand on fait du sport, ou quand on va au cinéma, d'ailleurs, on en a parlé avec le cinéma, eh ben ça peut être sur la carte de cinéma, comme ça, ils n'ont pas toujours à faire, pour quelqu'un qui est vacciné, il n'y a pas à refaire sans arrêt les tests, enfin les contrôles.
Jean-Pierre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser votre numéro de téléphone à Marie-Pascale, d'accord ?
Oui.
Hein, comme ça, elle vous contactera, j'espère, et vous pourrez échanger de tous ces sujets-là avec elle.
Par contre, il faudrait que je me coordonne un peu plus, que j'arrange ça un peu mieux pour que je puisse vous parler après pour mon cas personnel, si vous voulez.
Ben, ça fait un petit moment que j'attends, mais ça démarre pas là pour l'instant.
Ouais, bon d'accord. Ah oui, bon d'accord. Oui, vous avez dit que bon d'accord, c'était ça. Donc, si vous voulez, ce que j'ai, moi, je m'occupe, je vois un peu des trucs. Bon, c'est sur le Covid, sur le tout, quel que soit le coup. Un truc de quel qu'on soit le coup, c'est démentiel. Toutes ces choses-là, l'histoire de la taxe carbone, les choses comme ça, quand on voit qu'on veut nous faire le petit colibri qui est dans le feu, étant donné qu'on n'arrête pas de faire voler les avions, de faire rouler les voitures avec de l'énergie comme ça. On peut pas l'arrêter. Moi, l'autre fois, j'ai vu une émission où c'était au niveau du charbon, on en faisait encore plus qu'avant. Et alors les gens avaient parlé, et ben pour les éoliennes et tout ça, c'est du supplément. Alors comment voulez-vous ? Et puis les gens font leurs petites histoires, ils ne se rendent pas compte des choses comme ça, c'est ça. Non. Je vous dis, c'est pour les enfants, j'en ai rien à faire, moi, si vous voulez. Puisque j'ai 79 ans, qu'est-ce que ça peut me faire ? Moi, je dis, c'est pour les enfants, c'est pour... ça que je parle, c'est pour faire avancer, essayer d'arranger les affaires.
D'accord.
Bon, par contre, je vous dis pour mon cas, bon, j'ai trouvé un peu le moyen, j'ai dit tant pis, je fais le deuil, c'est-à-dire que ça va mettre d'aucun... Parce que j'ai des enfants, théoriquement, quand on a des enfants, on est responsable. Donc je me sens responsable. Je disais des choses à mon petit-fils, une fois que j'étais en train de faire, je voyais qu'au niveau des opérations, bon, il ne les avait pas faites, mais on voyait qu'il fonctionnait bien, donc j'essayais de lui faire des petits exercices par rapport à ça. Bon, on m'a attrapé en me disant, t'as pas à t'occuper de ça. Mais je voulais développer, moi, ces réflexions.
Oui, Jean-Pierre, c'est un peu compliqué de vous suivre, pour être honnête, et je pense qu'on est un peu hors cadre.
C'est là le problème, quoi.
Et oui, on est bien d'accord, on est un peu hors cadre d'une émission de radio, là. C'est trop confus pour que je puisse arriver à vous cadrer et qu'on arrive à avancer ensemble, malheureusement. J'en suis désolée, on va en rester là.
Non. Oui, mais je voudrais justement, du fait que c'est confus, à qui je pourrais m'adresser pour résoudre ces problèmes-là, quoi. Je sais que c'est confus, mais...
Je ne sais pas de quel problème vous parlez, c'est bien ça mon problème.
Eh bien, le problème, c'est que je ne peux pas communiquer. Ne peux pas communiquer ce que j'ai à l'intérieur.
Est-ce que vous êtes suivi par un thérapeute ? Est-ce que vous avez une pathologie quelconque ?
Ben, j'ai pas de pathologie une fois. J'étais allé voir pour ça. Tout le monde m'embêtait par rapport à ça. Ben, je suis normal, quoi.
La seule personne qui pourrait vous aider, c'est une psychothérapeute, hein.
Oh ben j'étais en voir une qui faisait, j'avais fait moi justement ce qui est intéressant, c'était de la truc collectif, enfin la thérapie, enfin ensemble là, comment ça s'appelle, je sais plus.
De groupe.
Oui, la thérapie de groupe. Mm-hmm. Mais quand j'ai fait de la thérapie de groupe, figurez-vous que la thérapeute, elle a voulu me virer. Elle a voulu me virer parce que j'avais dit que, vous savez, ma femme, bon c'était quelqu'un un peu de speed. Donc je lui avais dit qu'elle avait vu le papier, le contrat. Et sur le contrat, c'était mis qu'on pouvait payer en espèces.
Non, Jean-Pierre, on va en rester là. Je pense vraiment qu'il n'y a qu'une psychothérapeute qui peut vous aider, mais seule, pas en thérapie de groupe. Il faut que vous voyez quelqu'un seul. Hein ? D'accord ?
En fait, c'est grave, vous me laissez dans le même truc. Non, mais si vous voulez, c'est que je ne sais pas comment m'en sortir.
C'est ce que je vous dis, allez voir une professionnelle, allez voir une psychothérapeute pour vous aider.
Non, les, 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 prof, je vous dis, j'avais été voir. Bon, et j'essaye même de faire l'hypnose. Mais les psos, ça prend pas.
Non, pas sur vous, non, ça j'imagine.
Ah bon ?
Non.
Alors vous pensez que vous pas prendre sur moi, alors ?
Vous avez besoin de parler, mais de parler à une professionnelle.
Ah non, 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 ça suffit non, pas de parler.
Bon, bah alors, écoutez,
c'est d'arriver que les autres puissent... que je puisse communiquer avec les autres pour savoir, pour que je puisse leur montrer qui je suis. Alors le problème que j'ai aussi, que j'ai oublié de vous dire, c'est que je suis maladroit. Et tout ce que je fais, je peux jamais bien le faire. Mmh. Donc après on me dit, bah t'as qu'à le faire. Et je vois au niveau de l'informatique, c'est pareil. J'ai du mal à m'en sortir, parce que moi je ne peux faire que si je comprends. Que si je comprends les gens, il me faut une démarche pour que je comprenne. Et ben là, on me donne pas les démarches, on me dit tiens, t'as qu'à noter, tu fais ci, tu fais ça. Et moi, c'est pas ma façon. Quand j'étais prof, j'étais dans les enfants handicapés, donc et moi, ce que j'essayais de faire, c'est de voir leur compréhension. Parce que quand on comprend rien, on peut rien faire. Or, c'était ce que j'essayais de faire. Je faisais des exercices, des choses comme ça, pour essayer d'améliorer la compréhension. Donc.
Alors pour tout ce qui concerne Internet, vous pouvez aller vous renseigner à la mairie. Il y a des services qui aident les gens qui leur apprennent à s'en servir, si ça peut vous aider, ça.
Ben non, mais j'y suis allé.
Bon, ça ne va pas non plus, d'accord. Bon.
Ben non, ça ne va pas non plus. C'est ma façon de fonctionner et les demandes que je fais qui ne conviennent pas.
Alors une fois de plus...
Moi, je fonctionne différemment des autres. Et alors, disons, bon, je peux dire que je suis handicapé, mais quand je leur dis que je suis autiste, ben, ils me disent, c'est pas ça l'autisme.
Alors
quand on ne peut pas communiquer ce qu'on a à l'intérieur, et pour soi, c'est vrai, que les autres, quand on en parle, les autres ne reçoivent pas.
Ils disent,
c'est pas notre problème. Tout le monde se met la tête dans le sable actuellement. Il faut voir les choses. Donc, moi, je voudrais arriver à qu'on me dise au moins, t'es normal. Le problème, c'est que pour moi, je suis pas normal. On me dit, allez vous soigner. Vous-même, vous me dites, allez voir un thérapeute. Moi, je vous dis, j'essaye de faire ce que je peux. Donc, j'essaye l'hypnose. Si vous me dites que ça prendra pas sur moi, bah, je ne sais pas à quel sein se vouer. Moi, je n'ai pas d'automatisme.
Est-ce que vous avez été diagnostiqué autiste, Jean-Pierre ?
Ben non.
Je ne comprends pas très bien ce que vous me dites. Vous avez l'air de me dire que si, quand même.
Non, ben non.
Non.
Non, non, on me dit quand je dis que parce que moi je dis maintenant, puisque les gens ils veulent pas entendre ce que je dis, ben je dis c'est normal, je suis autiste. Parce que un autiste, vous êtes bien d'accord que l'autiste ne peut pas communiquer ce qu'il a à l'intérieur. On n'arrive pas à faire les choses. C'est pas pour ça que ce sont des abrutis. Or c'est la communication qui ne va pas. Et moi actuellement, c'est la communication.
Alors si vous ne voulez pas avoir de thérapeute, essayez de voir un coach qui pourra vous aider à apprendre à communiquer correctement.
Ah, c'est pas là. Non.
Ça va pas non plus. Bon, écoutez, Jean-Pierre, je crois malheureusement que je peux rien pour vous, là.
Ouais, bah, je crois. Et puis moi, c'était vous, le dernier espoir. Moi, j'étais pris un peu de court. J'avais dit, bon, je verrai, j'essaierai de préparer quelque chose. Mais
alors,
c'est
si
vrai,
vous...
je comprends que c'est confus.
Si vous voulez...
Mais je vous dis, heureusement que j'ai la tête sur les épaules, parce que
oui, moi,
la vie d'être incompris, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, d'être incompris. Et qu'on ne puisse pas sortir ce qu'on a dans la tête et de dialoguer avec ce qu'on a dans la tête pour voir. On me dit, bah non, tu dis c'est des conneries. Bon, qu'on me dise ça, d'accord, mais on n'écoute pas les choses dont je parle.
Est-ce que vous pensez que si vous preniez le temps de d'écrire les choses et de me rappeler dans quelques jours pour essayer d'être plus clair dans ce que vous avez à dire ?
Je voudrais bien essayer.
Alors, on fait
comme
ça ?
Alors, dans quel sens, qu'est-ce que vous voudriez ? Comment je pourrais faire pour prendre les...
Écrivez ce que vous avez sur le cœur, ce que vous avez à me dire, ce dont vous avez envie de me parler. Essayez de structurer votre pensée et peut-être ça vous aidera à structurer votre langage quand on se reparlera.
Ouais, parce que je comprends bien. Maintenant, j'ai compris que c'est l'histoire du langage. Hein. Mais, et puis, c'est surtout ça, quand je vois des gens qui m'agressent, enfin, ils m'agressent et puis ils m'en veulent presque, puisque quand je parle ailleurs, ils essayent d'intervenir. On dirait que je les blesse. Certainement, quand j'aurais parlé, ça les a peut-être blessés. Mais je vois la personne que j'avais eue à l'assurance. En aucun cas, je l'avais blessée.
J'ai compris, Jean-Pierre. Est-ce que vous voulez bien qu'on fasse comme ça ? Vous prenez le temps, quand vous êtes bien au calme, de décrire des choses,
ouais, de structurer... Ouais, de structurer comme ça, parce que voudrais bien m'en sortir aussi. J'avais dit, ça ne peut être que comme ça, parce que d'autres personnes qui entendent, par exemple pour la dame, eh ben moi je relis ça avec certains de mes problèmes.
On fait comme ça, Jean-Pierre ?
Oui, on fait comme ça.
Prenez le temps de mettre les choses par écrit et d'essayer d'être plus structuré, et on se reparle en essayant de trouver un terrain de compréhension commun, d'accord ?
Ouais, c'est pour expliquer les choses, oui, il faudrait faire un...
Ouais. Allez, je vous laisse, ouais, Jean-Pierre. Faites ça par écrit et rappelez-moi.
Oui, d'accord.
D'accord.
Bon, je vous remercie, excusez-moi, parce que... Allez, bonne soirée, au revoir.
Au revoir, Jean-Pierre.
Venez vous confier à Sabine Marin sur Europe 1.
Et c'est Juliette que j'accueille maintenant. Bonsoir, Juliette.
Bonsoir, Sabine. Voilà, je suis très contente de participer à votre émission.
C'est gentil.
Je suis fidèle tous les soirs, presque tous les soirs, je vous écoute et je tiens à féliciter toute votre équipe aussi.
C'est gentil.
Voilà,
même s'il y a des soirs où c'est plus difficile que d'autres.
Oui, c'est un peu intimidant, mais bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je suis divorcée depuis 13 ans, officiellement en 2008.
Oui.
Et il y a 10 ans, donc, j'ai refait ma vie, hein, j'ai tourné la page.
Qui a demandé le divorce ?
C'est moi qui ai demandé le divorce.
D'accord.
Et mon ex-mari m'a dit au moment du divorce, il était prévu de faire un divorce à l'amiable. Et finalement, il a préféré que chacun prenne de son côté un avocat. Nous avons eu un bel enfant, un beau fils, oui, en commun.
Mm-hmm.
Qui a été voulu, et il me tient par l'intermédiaire de notre enfant. Voilà, il ne me lâche pas. Pendant ces 13 ans où nous avons vécu ensemble, des joies et des peines, comme dans tout couple, jusqu'à l'usure, on va dire, de notre couple, et il l'a très mal pris, et il m'a dit « la vengeance est un plat qui se mange froid ».
Oh là. Alors attendez que je comprenne bien, vous avez été mariée 13 ans ?
Oui, depuis 96.
Et votre fils avait quel âge quand vous avez divorcé ?
Mais il n'était pas né, hein. Il est né en 2002.
Attendez, vous avez divorcé avant de faire un enfant ? Il y a un truc qui m'échappe.
Non. Alors, je suis mariée en 96 et j'ai eu mon enfant en 2002. Oui, donc l'enfant était né en 2002 et on s'est séparés en 2006 et le divorce officiel était en 2008.
Donc votre fils était petit au moment de la séparation ?
Oui, 4-5 ans.
Qu'est-ce qui a été décidé pour la garde ?
Alors, j'avais obtenu la garde définitive.
À temps plein ?
À temps plein. Il ne m'a jamais versé une pension alimentaire ou dérisoire. À peu près, c'était 80 euros.
Mais il vous l'a laissé, cette garde ? Il ne s'est pas battu pour avoir son fils ?
Alors, il s'est battu, mais comme il est au RSA, donc pas les moyens, comme les enfants deviennent exigeants... Il faut pouvoir avoir un cadre, une maison pour pouvoir bien l'élever.
Mmh.
Donc, la garde m'était destinée.
D'accord.
Il avait le droit au droit de visite en tant que père. Je n'ai jamais refusé la visite du papa. Je n'ai jamais coupé le lien.
Vous avez maintenu ce lien-là.
Voilà, ouais, j'étais toujours d'accord.
Ouais.
Jusqu'au jour où chaque année il m'a toujours envoyé en justice une à deux fois. Ça tourne au ridicule.
Pour quelle raison ?
Pour avoir l'enfant, alors qu'il savait pertinemment qu'il pouvait pas l'avoir, il avait pas.
Ah, il a pas lâché l'affaire alors, d'accord.
Voilà, il lâchait pas l'affaire. Donc il m'a dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, donc j'ai commencé à comprendre qu'il me relançait à peu près tous les ans en justice une à deux fois par an. Et là, je me suis dit, chouette, notre enfant, notre fils maintenant, il va bientôt avoir 19 ans, donc il est majeur.
Oui, on est sorti de tout ça.
Or, il me relance une nouvelle fois. Ça faisait 2 ans, j'étais un peu tranquille. Il me relance une nouvelle fois en m'envoyant évidemment en médiation. Or, la médiation, c'est toujours stérile parce qu'il faut que ça marche dans son sens. Et pas quelque chose qui peut arranger les deux.
Mais attendez, il vous relance pourquoi, puisque l'enfant est majeur ?
Oui, l'enfant est majeur, mais il fait des études et sur les dernières modifications, il tient à apporter des modifications aux décisions qui ont été arrêtées lors de mon dernier passage au JAF.
D'accord, alors,
affaires familiales.
Est-ce qu'à chaque fois qu'il est revenu à la charge, il avait du nouveau dans sa vie qui pouvait justifier un appel?
Apparemment, non.
Une maison, un boulot, je ne sais pas, une vie stable?
Non.
Et quels ont été...
au même point, sa situation n'a pas évolué.
Quelles ont été ses relations avec votre fils pendant toutes ces années?
Alors, assez distante.
Ouais.
Assez distante. Il craint un peu son père. Il faut savoir qu'il y a eu une manipulation comme il m'a manipulé. Hein. C'est pour ça que j'ai demandé le divorce quand j'ai vu clair. À 16 ans, Virgile a voulu vivre chez son père, mieux le connaître.
Mm-hmm.
Je ne m'y suis jamais opposée.
Ça n'a pas dû être facile quand même à entendre ça.
Non, ça n'a pas dû être facile. J'étais un peu malade même. Hein. Mm-hmm. J'en pleurais un peu, ce qui est normal. Hein.
J'imagine, oui.
Et donc, j'ai jamais refusé. Je dis, ok, tu vas chez ton père. Sache que dès que tu pars de la maison, ma porte sera toujours ouverte. Je t'accueillerai quoi qu'il arrive.
Ouais, c'est bien ça.
Mais je refuse de payer quoi que ce soit. Je lui ai expliqué la raison, hein, bien sûr.
Mm-hmm.
Je lui ai dit, ton père ne m'a jamais payé de pension. J'ai exigé par principe une petite somme qui était dans ses possibilités. Jamais il ne me l'a, jamais il ne m'a payé de pension. Et donc, il faut savoir que Virgile était informé que je coupais, je fermais le robinet, quoi, l'argent. Hein, et je lui ai bien expliqué que ton papa, tu vas avoir du mal à réaliser ce que tu veux faire plus tard. Et que ce soit subvenir à tes besoins, que ce soit aux études ou autre. Enfin bon, fais comme tu voudras. En tous les cas, maman t'accueillera toujours et on se verra. Ça ne changera rien à notre relation.
D'accord.
Et donc, je l'ai vu là dernièrement, d'ailleurs, avant de partir en vacances, hein, en juillet. Et il m'a dit, maman, j'aimerais bien que tu m'apportes les cadeaux de Noël. Je lui dis, comment se fait-il d'ailleurs que tu refuses de venir passer Noël avec nous et autres? Et il m'a dit, je peux pas, j'ai pas le temps, je m'accroche, la fac c'est dur, patati patata. Enfin bon, on a tous été adolescents, on a d'autres préoccupations.
Donc ça fait 4 ans qu'il vit chez son père, si je comprends bien.
De 16 ans là, à 18 ans.
En 2 ans.
En décembre, oui.
2-3 ans, oui, d'accord.
Voilà. Et moi, j'ai bien signalé au dernier jugement que... enfin, Virgile était au courant, hein, on se voyait entre-temps, comme quoi je coupais les vivres. Et je refusais de le voir, donc je ne verserais pas de pension alimentaire au papa.
Oui.
Dans la mesure où c'était plus pour le père que pour notre fils, le connaissant. Hein. Et ça a été accordé. Et j'ai bien dit, précisé dans le jugement, comme quoi je pouvais voir mon fils une fois par mois. Et si j'avais à l'aider, à le conseiller, ou à lui donner une petite somme d'argent, que je ne refusais pas.
D'accord.
Mais à mon fils, pas à mon ex-mari. Et donc, ça s'est réglé comme ça, ça s'est bien passé. Et là, cette année, l'année dernière, je l'ai vu, ça fait 2 ans hein, qu'il vit chez son père. Et l'année dernière, je l'ai vu régulièrement, et cette année, par contre, moins. Et ça m'a surpris depuis décembre dernier. Et je vois que notre relation est toujours fusionnelle avec Virgile, on s'est vu en juillet, et que là, mon ex-mari me relance à nouveau. Voilà.
En demandant quoi, cette fois?
Alors, une médiation, et je suppose, comme il est très calculateur, il va me renvoyer à nouveau en justice. Il va mener un procès. Parce qu'il a le temps de s'occuper de ça. Hein.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est dans quel but, puisqu'il a son fils maintenant chez lui?
Parce que mon fils fait des études, donc il faut lui payer une pension alimentaire.
Mais comme lui n'a rien payé pendant des années, comment...
Oui, c'est ce que j'ai déjà dit en justice. Et...
Comment il va justifier cette demande?
Je n'en sais rien, je n'en sais pas plus, parce que rien ne s'arrange à l'amiable. Virgile, je l'ai appelé cet après-midi en lui disant que j'aimerais discuter en tête-à-tête avec lui demain. Donc il m'appellera, on se verra, puis on en discutera.
Est-ce qu'il a changé de comportement avec vous, là, depuis quelque temps?
Virgile?
Oui.
Alors, j'ai trouvé changé parce qu'il s'est fait opérer des dents de sagesse au mois d'août. Or, j'étais partie dans ma famille à l'étranger, au Portugal. Et donc, je demandais de ses nouvelles. Or, je n'ai pas eu de SMS ni d'appel. Mmh. J'ai essayé de mon côté d'appeler, ça ne décrochait pas, il n'y avait pas de répondeur. Et j'ai lancé plusieurs SMS et je n'ai rien du tout. Mmh. Et là, par contre, je l'ai eu aujourd'hui et on va se voir normalement demain.
Mmh, mais quand vous l'avez eu, il était normal, gentil avec vous.
Oui, oui, oui. Oui, oui.
Bon.
Donc là, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est main dans la main avec son papa ou est-ce que ça va mal? Bon, je suppose qu'à cet âge-là, il a besoin de mener sa petite vie.
Voilà, c'est un peu ce que j'allais vous dire. Il y a un peu de tout. C'est surtout un garçon qui est en train de devenir un jeune homme.
Mais il a mûri, oui, oui.
Et oui, donc ça change la donne. Et aussi, oui. Tout ça.
Oui, 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 oui. Donc moi, je suis prête à l'aider, à lui donner une participation financière, mais qu'il parte de chez son père. Parce que je suppose que son père lui demande de payer l'électricité, de payer des factures. Or, il est étudiant et il n'a pas de travail. Et je suppose que c'est au père de subvenir aux besoins de son fils.
Et pas l'inverse.
Et pas l'inverse. Donc là, il subit son père, quelque part.
Est-ce que ce monsieur, votre ex, vous savez comment il vit? Est-ce qu'il a retrouvé quelqu'un? Est-ce qu'il a du boulot?
Il n'a pas de travail, il n'a pas de compagne à tenir. Ça va, ça vient comme dans un hall de gare. Excusez-moi de vous dire ça, mais...
J'aime bien l'expression.
Voilà.
Bon.
Donc, je le respecte, mais je suppose qu'il me dénigre énormément auprès de notre fils, quoi.
C'est une supposition ou il vous l'a dit?
Virgile me l'a fait comprendre.
D'accord.
Par contre, il ne me dit pas vraiment ce qui se passe de l'autre côté.
Alors effectivement, je pense que sur le plan financier, il faut que vous soyez extrêmement vigilante et que peut-être le seul moyen de vérifier que ce n'est pas votre mari qui se sert de l'argent, c'est de payer directement les frais qu'il a payés, les frais scolaires ou les frais pour le déplacement, des choses comme ça, vous voyez. De les régler en direct.
Voilà. C'est ce que j'avais en tête.
Oui,
et comme cette médiation ne portera aucun fruit, est-ce que mon avocate pourrait adresser un courrier au médiateur?
Normalement, si une avocate, il n'y a pas besoin de médiateur. Dans quel but vous aimeriez qu'elle fasse un courrier?
Parce que je ne tiens pas à prendre un rendez-vous qui sera stérile. C'est une perte de temps face au médiateur, parce qu'on n'est jamais en accord avec mon ex-mari.
D'accord, donc vous voulez quelque part, pas imposer, mais donner vos règles en disant, voilà, pour moi, ça sera comme ça, point.
Voilà.
Et ça, vous en avez parlé avec votre avocate?
Non, justement, je tenais à le faire. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne... C'est la première fois que j'agis comme ça, je ne sais pas si c'est une bonne méthode... Parce que jusqu'à maintenant, j'ai assisté à toutes les médiations. Ça n'a
rien donné.
Pour la Touraine. Hein.
Mais là, je dirais que c'est pas forcément une médiation. Si vous prenez la décision de régler vous-même les frais, que ce soit des frais scolaires, des frais de transport de votre fils, c'est pas une négociation, c'est comme ça, point.
Moi, je veux bien négocier avec mon fils, mais pas avec mon ex-mari. Mon fils est majeur, donc je vois pas... J'ai plus rien à faire avec mon ex-mari.
Ben c'est ce qui me semble aussi, oui. Et ça,
mais...
ça faudrait vraiment que votre avocate vous confirme ça sur le plan sur le plan légal, mais sur le plan de l'argent. Effectivement,
oui.
vous dites à votre fils que l'argent, c'est pas quelque chose que vous allez verser sur un compte sans vérification.
Il le sait pourtant que j'ai un livret, un tel à mon nom qui lui appartient. Il le sait, j'en ai fait part. Donc c'est pour ça que je me demande si vraiment notre fils est au courant comme quoi son père m'emmène en justice.
Mais vous me dites que vous lui avez dit.
Ah non, je ne lui ai pas dit. Hein. J'ai juste signalé à mon fils là au téléphone aujourd'hui comme quoi j'aimerais m'entretenir
oui,
avec
non,
lui.
Oui, mais vous allez lui dire en fait, vous ne comptez bien pas.
Oui, voilà, lui annoncer, voilà.
Oui,
c'est pas fait encore.
Moi, je pense qu'il faut être le plus sincère possible avec votre fils.
Ah oui.
Et éviter au maximum votre ex qui, de toute façon, ne cherche que les ennuis ou l'intérêt de l'argent, quoi.
Voilà, voilà.
Et que votre avocate vous le mot m'échappe. Vous protège le plus possible, voilà, qu'elle vous accompagne en vous protégeant, en vous évitant effectivement des conciliations qui, a priori, ne servent à rien, quoi, pour vous.
ben, pour moi, ne sert à rien, parce qu'il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun accord en commun, quoi.
Oui.
Quand je propose quelque chose, il fera le contraire, ou quand je dis quelque chose, il inverse à son propre intérêt, quoi, les choses, donc c'est un véritable manipulateur.
Mais vous,
ça relève de la psychiatrie, hein, c'est un boulet, là. Hein.
J'ai l'impression pour vous, en tout cas. Mais si j'ai bien compris, la condition pour aider votre fils, ça serait qu'il quitte le domicile de son père.
Voilà.
Mais pour aller où ?
Ben pour prendre un appartement, une location étudiante ou être colocataire.
Et ça, vous l'aideriez à payer ?
Ben pourquoi pas, oui.
D'accord.
Je sais que c'est pour lui.
D'accord. Ben, je pense que la première étape, c'est quand même de lui en parler à lui.
Voilà, exactement.
Tout simplement, lui dire, moi je veux bien t'aider, mais je n'ai aucune confiance en ton père pour la gestion de l'argent. Et donc, si tu veux être autonome, je suis là pour toi. Mais ça ne passera pas par lui, quoi.
Voilà.
Moi, je pense, logiquement, votre fils devrait plutôt être heureux de ça.
Je pense aussi, oui.
18 ans, il a comme voilà, il commence à pouvoir s'assumer.
Oui.
Sauf si vraiment il a une vie de rêve avec son père, mais j'ai pas l'impression que ça soit le cas, d'après ce que vous me racontez.
Non, il est pas si heureux que ça, hein, je ne pense pas. Hein.
Et puis, être toujours entre vous deux, ça doit pas être facile à vivre non plus pour lui, hein.
C'est pas facile à vivre pour lui, et puis je pense qu'il doit ouvrir l'œil aussi, sachant que son père essaye de m'atteindre, quoi.
Ben oui.
Or, il ne m'atteint plus.
Ben si, quand même, malheureusement, il arrive encore.
Virgile. Il arrive encore. Virgile qui est freiné, voilà.
Oui, mais il arrive encore à vous énerver, votre ex. Hein.
Il va pas être content, hein, ça c'est sûr, mais j'aimerais bien qu'il arrête aussi son. Parce que là, c'est un peu s'immiscer tout le temps dans ma vie, quoi. C'est,
L'avantage, si votre fils habite dans un petit studio, par exemple, à lui, c'est qu'il va où il veut, chez qui il veut, quand il veut. Il n'y a plus de « il est chez moi, il est chez toi, c'est moi qui paye, c'est toi qui paye ».
Voilà.
C'est une liberté pour chacun, finalement. Et votre mari, il va devoir lâcher aussi de son côté.
Exactement.
Votre ex-mari, pardon.
Je pense que ce sera la meilleure solution.
Et j'espère que votre fils va accepter ça pour tout le monde, finalement, ça me paraît... Une solution d'apaisement.
Qu'est-ce que ça pouvait être vrai. Enfin, j'espère. J'y crois toujours.
Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? Qu'est-ce qu'il commence comme étude, là?
Alors là, il est en deuxième année de fac de philo.
D'accord.
Alors, tantôt, il voulait être psychologue, comme tantôt journaliste.
D'accord.
Donc, il fait du théâtre à côté.
Bon, mais c'est un gamin qui est bien dans ses baskets, alors.
Oui.
Bon, ça c'est quand même le plus important dans l'histoire.
Oui, qu'ils soient en bonne santé, surtout un bon équilibre, quoi.
Vous avez réussi ça, en tout cas.
Voilà. C'est un beau cadeau, oui.
Ça c'est le plus important, hein. C'est nos enfants.
C'est important, oui. En tant que parent, oui.
Bon, Juliette, parlez-lui franchement. Et je pense que votre solution me paraît apaisante pour tous. Et plus sécurisante pour vous aussi.
Surtout, oui.
Verrouillez ça ensuite avec votre avocat. Deux.
Parce que bon, depuis tant d'années, c'est un sacré... C'est les engraisser aussi, les avocats, c'est un jeu.
Ah bah oui, aussi, c'est, malheureusement, c'est...
Oui. Dès qu'il sera majeur, je serai tranquille, ouf, débarrassé. Mais même comme ça revient à charge, quoi, à la charge. Et je peux rien... parce que bon, lui, il ne paye rien en justice. Hein. Moi, je débourse, hein, par contre. Donc,
il a droit à l'aide juridictionnelle, c'est ça?
Voilà.
Et pas vous?
Et pas, non, puis le fait d'être sans travail, de bénéficier de l'argent qui lui tombe du ciel, le RSA, qui fait que ça lui est gratuit, quoi, à 100%. Moi, par contre, ça me fait jeter par les fenêtres de l'argent qui servirait plus à notre enfant, quoi.
Oui, c'est pour ça.
Il prend un malin plaisir à nous atteindre, quoi, à nous faire du mal.
Ouais.
Moi, je le comprends comme ça. Hein.
C'est possible, c'est vrai que lui, si ça ne lui coûte rien, et il se venge, comme il a dit, dès le début, il vous a dit, la vengeance est un plat qui se mange froid, ça laissait déjà sous-entendre des choses pas sympas derrière.
Voilà.
Donc ça serait vraiment bien, même pour votre fils, s'il pouvait prendre cette distance physique.
C'est pour ça que je tiens à m'entretenir avec lui demain.
Ça me paraît une excellente chose de commencer par ça.
Oui.
Je vous souhaite du fond du cœur que ça se passe bien.
Ben, j'espère aussi. J'espère.
Bonne chance, Juliette.
Merci beaucoup, Sabine. Et bonne continuation pour votre émission.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et c'est Benoît que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu.
Enchanté.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir ?
En fait, je voudrais juste témoigner, enfin témoigner, c'est pas témoigner, mais juste avoir un avis, en fait, d'une psychologue et tout.
Je ne suis pas psychologue, vous le savez. Hein.
Ah non, je ne savais pas du
je
tout.
Je suis hypnothérapeute, je me sers de l'hypnose pour accompagner les gens sur vers un mieux-être.
D'accord, peu importe, mais juste pour avoir un avis, peut-être, ce qui m'arrive, c'est qu'en ce moment, en fait, j'ai 35 ans, je suis célibataire. Et j'ai une relation sexuelle avec une collègue de travail. Mm-hmm. Elle est beaucoup plus âgée que moi. C'est-à-dire qu'elle approche la soixantaine bientôt. Mais elle est fraîche. Elle est comment dire bien. Enfin, je veux dire, elle est bien quoi. Je veux dire. Mm-hmm. Bon, c'est. En fait, on va dire, j'ai eu 3 relations sexuelles avec elle, et en fait, moi, je veux plus, mais elle a toujours, en fait, elle s'accroche, et en fait, qu'est-ce que je dois faire, quoi ? Enfin, je veux dire, je peux pas la blesser, mais
Vous vous êtes mis dans la mouise, hein, Benoît.
Pardon ?
Vous vous êtes mis dans la mouise.
Après, est-ce que je dois en parler à mes proches ? Je ne sais pas, parce que je n'en ai pas parlé encore. Là, je parle anonymement. Je ne sais pas, quoi. Parce qu'après, moi, je suis d'un tempérament, on va dire, conciliant. Mais en fait, ce n'est pas que je profite de la situation, mais je veux dire...
Comment vous en êtes arrivé dans quel jeu, je ne vais pas forcément vous donner trop de précisions, j'ai compris que vous vouliez rester anonyme, mais dans quel type de société travaillez-vous ? Quel genre de métier vous faites ?
Je suis à la poste, en fait, je suis postier. En fait, du coup, on est des équipes, il y a plusieurs équipes, en fait, si vous voulez. Puis après, des fois, on fait des soirées entre collègues, quoi.
Mais comment vous en êtes arrivé à coucher avec elle, alors ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre...
Elle aussi, elle est séparée, elle est divorcée, et du coup, elle cherchait de l'affection, et du coup, moi, j'avais besoin de donner de l'affection aussi. Et après, je suis un peu... Enfin, les soirées, quoi. Un peu d'alcool, un peu de proximité, puis après, bon, ça part, quoi.
Oui, mais vous me dites 3 fois, c'est pas juste, comme on dit, un coup d'un soir. 3 fois, c'est que vous y êtes revenu, quand même, c'est qu'il y a quelque chose.
Oui, parce que... Oui, c'est vrai, j'avais envie, parce que je l'aime beaucoup, mais... Mais je me sens vraiment détaché, puis en fait je vois qu'elle s'accroche quand même, mais elle a quand même plus de vécu que moi, et c'est-à-dire après moi j'ai 35 ans là, j'ai un peu de vécu quand même aussi, je me dis je culpabilise un peu, et je me dis ouais c'est pas bien ce que j'ai fait.
Vous n'avez pas de sentiment pour elle, si je comprends bien?
J'ai des sentiments amicaux, quoi, c'est tout. Après,
mais les sentiments amicaux, ça, normalement, on ne couche pas ensemble.
Ouais, mais après, c'est comme... un peu de proximité, on s'est fait un peu du pipe, puis après, en fait, ça a démarré comme ça, quoi. Ça a démarré, on boit un verre, on discute, on parle, on rigole, après,
mais ça se couche. Quand vous dites, elle s'accroche, c'est-à-dire que, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous appelle beaucoup ?
Elle m'envoie des messages. Elle m'envoie des messages beaucoup. À l'oral, elle me dira à l'oral que OK, il n'y a pas de souci, je comprends. Elle est très compréhensive. Mais à l'écrit, c'est différent, quoi. Du coup, après, je n'ai pas parlé autour de moi parce que j'ai un peu honte, en fait. Après.
Mais attendez, elle est compréhensive, ça veut dire que vous lui avez dit quoi qu'elle a compris ?
Moi, je lui dis que. Qu'il n'y avait pas d'avenir, quoi. Je veux dire, on ne peut pas avoir une relation.
D'accord.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc, si elle a compris, pourquoi elle continue à vous envoyer des messages, alors ?
Je ne sais pas. Après, justement, c'est pour ça que je ne sais pas, en mode de psychologie, c'est quoi, ça ?
Qu'est-ce qu'elle met dans ses messages ?
Dans ses messages ? Dans ses messages, c'est plus... En fait, elle vient demander des nouvelles. Et... après elle dit qu'elle pense à moi, des trucs comme ça, quoi. Alors... C'est vrai qu'après, moi, je mets un peu de temps pour répondre. Bah, après, je fais exprès, mais... Parce qu'en fait, je ne sais pas quoi dire directement dès le début, quoi. Après, peut-être que je ne suis pas honnête, je ne sais pas.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez été très clair dans le fait que c'est fini, que vous ne voulez plus qu'il y ait une suite, ou vous êtes resté un peu flou?
Ouais, bah après, j'ai été clair, je pense. Mais après, comme ça continue, bah, je ne sais pas. Les fois où ça s'est passé, en fait, où on a eu d'autres relations, enfin, je veux dire, pour la deuxième fois et la troisième fois, c'est qu'après, je me laisse emporter, quoi. Et je me dis, bon, bah, ok, elle a besoin d'attention, alors du coup, j'y vais. Bien, après, est-ce que je tombe dans un piège ou est-ce que. Je ne sais pas.
Le piège, vous vous y mettez tout seul, quand même, là.
Simplement... Après, c'est normal ou c'est pas normal ou c'est quoi?
Il n'y a pas de normalité dans ces situations-là, simplement. Est-ce que vous êtes appelé à la voir beaucoup dans le travail?
Non, parce qu'on n'est pas dans la même équipe, alors du coup, déjà, on ne va pas se voir beaucoup.
Déjà, c'est une bonne chose. Mais je crois que vous... Peut-être n'avez-vous pas été assez clair avec elle.
Ah ouais?
Parce que si vraiment vous l'aviez été, j'ai l'impression qu'il y a chez vous une peur de lui faire du mal qui fait que vous avez dit les choses sans vraiment les dire et qu'elle espère encore.
Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, c'est ça, mais...
Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un « je ne veux plus de toi » sans lui faire du mal.
Bah oui, c'est compliqué. Comment on le dit alors, du coup? Comment on va le dire?
On le dit gentiment, mais on le dit clairement. On le dit clairement, bah après, voilà, c'était très sympa, mais il faut vraiment que ça s'arrête. C'est pas quelque chose qui peut durer.
Après, le désir charnel, c'est humain, je veux dire. Après, moi aussi, hein, pour la troisième fois, par exemple, c'était juste un désir charnel, quoi. Je me disais, bon, il y a moyen, bon, j'y vais.
Après, mais là, vous voulez le beurre et l'argent du beurre.
Ah, du coup, c'est moi qui ne sais pas bien, c'est moi qui ai un problème alors.
C'est pas bien d'être un problème, c'est que c'est votre discours n'est pas clair parce que vous lui laissez entendre que, bah oui, vous pourriez craquer finalement.
Oui, moi je vais craquer. Sauf que c'est facile pour me faire craquer.
Sauf que vous craquez physiquement et qu'elle, vous avez compris qu'elle attend de la tendresse, elle attend autre chose.
Et du coup, qu'est-ce que vous me conseillez alors?
D'être plus clair avec elle. D'être vraiment plus clair. De lui dire que pour vous, c'est uniquement sexuel et que vous ne voulez pas qu'elle risque de lui faire du mal si elle s'attache ou si elle espère autre chose.
Mm-hmm.
Et vous pouvez aussi lui dire très clairement que c'était très agréable et que si elle a envie que ça continue et que vous aussi, vous êtes deux adultes majeurs et consentants, ok, mais qu'elle n'espère pas autre chose. Mais j'ai l'impression que ça...
C'était très agréable, hein, y a pas de souci. Hein, mais comme après je me projette pas, quoi, en fait. Je me projette pas. Et... Bah, je lui ai dit ça, en plus. Hein,
Mais je crois qu'il faut le dire de façon plus claire que ça. Sans être méchant,
C'est moi, en fait, alors.
Il faut être un peu plus ferme, je pense. Parce que là, les messages prouvent qu'elle espère encore quelque chose.
C'est ça. Et après, peut-être que, de toute façon, si elle envoie des messages, elle a droit aussi, après...
C'est pas une question de droit, c'est que ça va lui faire du mal si elle ne comprend pas vraiment.
Est-ce qu'elle aura du mal? Vraiment, ou peut-être qu'elle aussi, comme, je ne vais pas vous dire que... Non, parce qu'après,
Benoît, l'émission se termine, je ne vais pas pouvoir malheureusement tergiverser là-dessus. Soyez clair dans vos propos. Peut-être qu'elle aussi, elle attend que des relations sexuelles. Dans ces cas-là, tout ira bien. Mais dites-lui que si elle attend autre chose, ça ne va pas être possible. Juste ça. D'accord.
Ok.
Je suis désolée, il me reste 15 secondes pour finir l'émission.
Merci, c'est très gentil, merci de votre conseil.
Si vous voulez me raconter la suite, rappelez-moi le soir, un peu plus
tôt. En fait, je savais déjà, mais c'est bien de
l'entendre.
Voilà.
Allez, je vous laisse, l'émission se termine pour ce soir. Je n'ai même plus le temps de vous donner la phrase du jour. Je vous souhaite juste une bonne nuit. Et je vous retrouve demain soir à partir de 23h sur Europe 1 pour une nouvelle Libre Antenne. Bonne nuit et à demain.